Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans ce magnifique évangile selon Saint Matthieu, avec maintenant le chapitre 2. Donc, vous prenez votre polycopier, pour ceux qui l'ont devant eux, ou sur l'Internet, sur le site, page 10. Donc, c'est le fichier concernant tous les chapitres 1 à 5 compris, 5 premiers chapitres de Saint Matthieu, donc page 10 de ce polycopie. Alors le texte, toujours pareil, le texte encadré représente le texte et le texte de l'Écriture Sainte, en général c'est le texte de l'abbé Filion, et ensuite vous avez les passages les plus importants des pères, justement les passages que j'aime le mieux, sur des pères de l'Église, concernant les versets qui sont encadrés juste au-dessus. Alors voilà les premiers versets de Saint Matthieu chapitre 2. Jésus étant donc né à Bethléem, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Alors il y a un point déjà très important ici. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, donc il n'y a qu'une seule Église. Alors il faut que tout le monde puisse rentrer dans cette Église, à condition évidemment qu'on cherche Dieu. Donc cela clôt le bec à tous ceux, les modernes, qui disent qu'ils veulent absolument une Église des pauvres, une Église des pauvres, une Église des pauvres. L'Église catholique n'est pas simplement une Église des pauvres, c'est l'Église de tout le monde. Les riches et les pauvres, les petits et les grands, les roturiers et les rois, tout le monde est appelé devant notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église. On voit très bien qu'après la naissance qui vient, d'abord les princes célestes, les anges, puis immédiatement après, nous aurons les pauvres, à savoir les bergers, puis nous aurons également les rois mages, qui représentent les gentils. Donc les bergers représentent les juifs, et les rois mages vont représenter les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Encore une fois, pour bien faire comprendre aux juifs, qui croyaient eux que leur Dieu était un Dieu qui n'allait s'occuper que des Juifs, non, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'unique vrai Dieu, était un Dieu pour tous les hommes, y compris les non-Juifs. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ces Juifs, sur ces mages. Les pères ne sont pas entièrement d'accord d'ailleurs sur certains points. Par exemple, tous les pères ne sont pas d'accord sur l'origine des mages. Certains disent qu'ils venaient des Persans, certains disent qu'ils étaient des Chaldéens, parce que les Chaldéens adoraient les étoiles et étaient des astronomes réputés. D'autres disent au contraire que c'était des descendants de Balaam. Donc on va expliquer tout ça avec les différentes distinctions qu'il faut faire. On verra que quand même la loi générale, l'idée générale des pères, c'est quand même que les mages venaient d'Arabie. Alors, d'abord, un point important, vous avez une phrase magnifique des pères, là, que j'ai remis avec un français splendide. Je vous dis tout de suite que quand le français est magnifique, c'est pas moi qui l'ai traduit. Hein. Quand le français est moins bon, en général, c'est moi qui ai traduit. Je ne suis pas un professionnel des traductions, je vous prie de m'en excuser. Mais là, c'est des textes que j'ai trouvés directement en français, alors ils sont magnifiques. Il y a cette première introduction des pères, après ce miraculeux enfantement où le sein d'une vierge plein de la divinité mit au monde, sans perdre le sceau de son inviolable pureté, un homme Dieu dans les réduits obscurs d'une caverne et sur le fil étroit d'une crèche où l'infinie majesté reposait ses membres raccourcis, pendant qu'un Dieu était suspendu au sein D'une mer mortelle et enveloppé de la misérable lange, on vit tout à coup un astre nouveau briller du haut du ciel, dissiper l'obscurité qui couvrait l'univers et changer la nuit en un jour éclatant, afin que le jour ne demeurât pas enseveli dans les ombres de la nuit. Donc deux points importants dans ce texte qui est splendide. D'abord, pour bien nous faire comprendre que la Très Sainte Vierge Marie, d'après les Pères et d'après l'Église catholique, a toujours été vierge, attention, sans perdre le sceau de son inviolable pureté. Elle est devenue mère sans perdre sa virginité. Elle était donc vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point important, notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est donc ce nouvel astre qui est venu briller du haut du ciel, dissiper l'obscurité qui couvrait l'univers et changer la nuit en un jour éclatant. Notre Seigneur Jésus-Christ est la nouvelle lumière. La lumière du monde, et l'Écriture sainte nous dit que lorsque la lumière brille, il faut la mettre non pas sous le boisseau, mais sur la table pour que tout le monde puisse la voir. Et elle va dissiper l'obscurité. Alors quel est le symbole de l'obscurité? L'obscurité représente l'obscurité des païens, l'obscurité des faux dieux, l'obscurité des fausses églises, l'obscurité du péché. Notre Seigneur Jésus-Christ vient illuminer le chemin qui descendait vers l'enfer pour que les gens se rendent compte qu'ils vont vers l'enfer, rebroussent chemin, parce que maintenant qu'ils voient clair, ils voient exactement où il faut aller pour remonter vers le ciel. Alors, je vais utiliser surtout pour vous commenter les images, un texte magnifique de Monseigneur Gaume sur un livre que je vous conseille beaucoup. Les manuscrits, les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume, un grand historien, un grand catholique, un grand bonhomme du 19e siècle. Donc, que je vous conseille beaucoup ces livres, donc deux volumes, et qui expliquent la vie de tous les contemporains de notre Seigneur Jésus-Christ connu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé à Hérode, qu'est-ce qui est arrivé à Barabbas, qu'est-ce qui est arrivé à Marie-Salomé, à Marie-Cléophas, qu'est-ce qui est arrivé au roi Mage, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce que sont devenus les bergers, par exemple. Vous avez tout là-dedans. Et avec des sources innombrables. Pour clore le bec de tous les calomniateurs qui racontent que Mgr Gaume ne cite pas ses sources. C'est totalement faux. Il suffit d'ouvrir ses livres, vous verrez qu'il y a des sources partout en bas de page. Je ne vais pas vous les lire parce que je n'ai pas le temps. Donc il y a presque 70 pages rien que sur l'image, donc je n'ai pas le temps de tout vous lire. Je vais utiliser un petit peu ce que dit Mgr Gaume, donc ce grand historien, pour vous faire aimer, si vous voulez, les rois mages. Donc vous connaissez le texte plus complet de l'Écriture sainte concernant les rois mages, le voilà. Ayant entendu le roi Hérode, les mages s'en allèrent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus du lieu où était l'enfant. Donc ça, c'est dans Saint Matthieu. Or, en voyant l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Et rentrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère. Et de leur trésor ouvert, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant été avertis en songe de ne pas revenir vers Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Donc on a déjà vu et déjà expliqué que les mages n'étaient pas les premiers adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet honneur revint, comme je l'ai expliqué, aux bergers de Bethléem. En fait, le premier honneur revint aux anges, puis aux bergers, puis aux rois mages. Dire après les juifs, les gentils. C'est tout le genre humain qui est appelé à reconnaître le roi nouveau qui vient de naître. Donc après les bergers, les rois. Alors le monde vous dira, la sagesse humaine vous dira que c'est le monde renversé, le monde à l'envers. Mais la sagesse divine dit que c'est le monde redressé. Le pauvre et le petit, le riche et le grand, c'est l'égalité devant Dieu. C'est l'esclavage brisé, c'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le commencement de la révolution bénie qui vient opérer l'enfant de Bethléem. Que vient opérer, pardon, l'enfant de Bethléem? Alors voilà un petit peu ces mages. Donc qui étaient-ils? Alors, le père Mgr Gaume fait d'abord remarquer qu'il y avait toute une série d'antiques traditions venues des révélations primitives, venues aussi de fausses religions. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, utilise parfois des païens pour dire la vérité. On va voir l'exemple de Balaam, un prophète païen, donc qui était venu pour maudire Israël, invité par Balak. Et au lieu d'insulter Israël, de maudire Israël, il va encenser Israël, bénir Israël. Il y a des sibylles, par exemple, à Rome, qui avaient fait des prédictions sur l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ utilise parfois des choses comme ça pour amener les gens d'une fausse religion à découvrir la véritable religion. Et donc là, le Monseigneur Gaume cite deux textes, entre autres de Suétone, un de Suétone et un de Tacite. Tout l'Orient, disait Suétone, tout l'Orient retentissait de l'antique et constante croyance qu'il était dans les desseins, qu'en ce temps, époque de notre Seigneur, des hommes partis de la Judée jouiraient de la puissance souveraine. Ensuite, il cite Tacite. C'était l'opinion générale que les anciens livres des prêtres annonçaient qu'à cette époque, l'Orient prévaudrait et que de la Judée sortiraient les maîtres du monde. Alors, ces prêtres dont parle Tacite étaient des mages. Bon, alors, il faut savoir que dans l'ancien temps, au temps de l'Antiquité, en Orient, le mot mage voulait dire beaucoup de choses. C'était à la fois des prêtres, des philosophes, des conservateurs et interprètes des mystères de la science divine et humaine. C'est des sages, des savants, donc adonnés surtout à l'étude des astres, si profondément mystérieuses et relativement si faciles sous le ciel transparent de la Chaldée de la Mésopotamie. Donc, les mages, disent Monseigneur Combe, formaient une caste nombreuse qui paraît n'avoir pas été sans rapport avec les brahmanes de l'Inde, dont elle fut vraisemblablement la souche originelle. Ils étaient très répandus en Perse, en Babylonie, et dans toutes les autres parties du Haut-Orient, surtout en Arabie aussi. Telle était leur puissance et le respect religieux dont ils étaient environnés, qu'en Perse, par exemple, il fut un temps où nul ne pouvait être roi s'il n'était mage ou disciple des mages. Alors, Monseigneur Gaume explique que la caste sacerdotale était divisée en trois. Il y avait trois genres de mages. La première se composait des mages les plus savants et les plus vénérables. Ils vivaient un peu comme des moines. Ils habitaient d'ordinaire sur les montagnes, dans des grottes, menaient une vie très austère. Ils ne mangeaient ni chair ni poisson, se contentant pour toute nourriture de légumes bouillis dans l'eau et de la farine. Bon. Seconde caste, les prêtres proprement dit, en rapport plus habituel avec la population. Et enfin la troisième, s'adonnait aux sciences occultes, à la magie, aux évocations du démon, et faisait en Orient ce que font encore dans tous les pays idolâtres les prêtres des faux dieux. Alors, si étonnant que ça puisse paraître, Monseigneur Gaume explique que les trois rois mages appartenaient en fait à la troisième classe. Donc la classe, si vous voulez, la plus dangereuse. Donc, qui était une classe de, une espèce de classe de sorciers, de magiciens, qui s'adonnaient à l'occultisme. Donc, suivant les plus anciens pères de l'Église, ici de Saint Ignace, Saint Justin, Origène, Tertullien, les mages appartenaient à la troisième caste. Alors, une chose importante, au moment un peu avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, voilà que les démons qui renseignaient ces mages sur l'avenir se mirent à secourir des faiblesses, des difficultés dans les prestiges, les présages, les informations qu'ils donnaient, des hésitations, des troubles dans les oracles, des silences même dans les consultations. On ne parlait plus, on sentait qu'ils ne pouvaient plus dire ce qu'ils devaient dire. Pourquoi ? Ces phénomènes insolites firent réfléchir les mages et les amenèrent à se dire qu'un Dieu plus puissant devait être descendu sur la terre, puis l'étoile prophétique venant à briller acheva de fixer leur opinion. Donc encore une fois, on est chez les païens. On est chez les païens qui écoutent le démon. Et bien, même le démon a été obligé par Dieu de dire certaines vérités, entre autres, indirectement, d'annoncer que cette étoile mystérieuse qui allait arriver annonçait l'arrivée d'un nouveau roi qui serait bien plus grand que tous les rois précédents. Alors d'où venaient ces mages ? Donc, il y a plus de 1000 ans, avant notre Seigneur, que Balaam, mage lui-même, appelé par Balak, qui est un roi, dans l'Ancien Testament, pour maudire Israël, avait, prophète malgré lui, appelé sur ce peuple, au lieu de le maudire, toutes les bénédictions divines et annoncé dans les siècles des siècles ses glorieuses destinées. Donc voilà un païen qui dit des choses qui sont vraies. De bouche inspirée, donc, de Balaam, païens de son espèce vont sortir des prophéties véritables. Une étoile se lèvera de Jacob et le sceptre sortira d'Israël. Et il ajouta, celui qui portera le sceptre annoncé par l'étoile dominera l'Orient et l'Occident. Donc ce sont des annonces, si vous voulez, des prophéties faites par un mage païen. Donc, vous trouvez ça dans le livre des Nombres. Donc c'est dans toute lettre dans la Bible qui explique qu'un païen va prophétiser des choses qui sont vraies. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comme ça que ça s'est passé. Or, Balaam n'était pas lui-même un arabe. C'était un mésopotamien. Mais la prédiction de Balaam fut faite en Arabie. Il a été appelé en Arabie par Balak, qui était roi d'une tribu qu'on appelait les Moabites. Dans le royaume à la capitale, Moab, était en Arabie. Donc c'est donc en Arabie, dans ce pays, que son étonnante prophétie dut se conserver avec plus de fidélité, d'autant plus que les mages, prêtres de l'Arabie, étaient les confrères, les successeurs de Balaam. Donc, Balaam est appelé par Balak, roi des Moabites, en Arabie, et c'est là qu'il va faire sa prophétie. Et Saint Jérôme explique, à la confusion des Juifs, qui devait apprendre des gentils la naissance du Messie, une étoile paraît à l'Orient, étoile qu'avait prédite Balaam, dont ils étaient les successeurs. Voilà donc une première indication du pays des mages qui vinrent à Jérusalem. Donc c'est une humiliation terrible pour les Juifs. Donc ils sont le peuple élu, et voilà que le roi des rois arrive, le grand Messie arrive, et l'étoile qui amène les gens à Bethléem va apparaître à des païens, et pas à eux. Donc, à part les bergers, les gens de Jérusalem ne vont pas venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont les rois mages, donc, qui viennent de l'extérieur, des païens, qui vont prendre déjà la place des Juifs. Alors, il y avait d'autres citations, déjà, dans l'Ancien Temps, des prophéties qui a annoncé cette arrivée des rois mages. Par exemple, dans David, le roi David, va, dans ses psaumes, annoncer que les rois des Arabes et de Saba lui apporteront des présents, apporteront à notre Seigneur Jésus-Christ, nouveau-né, des présents. Et puis il y a également d'autres textes qui disent, par exemple, tu seras couverte d'une inondation de chameaux, des dromadaires de Madian et d'Éphas, c'est Bethléem dont il est parlé. Tous ceux de Saba viendront apportant or et encens et chantant gloire au Seigneur. Vous voyez que les choses sont très bien expliquées par Mgr Baume. Donc, selon la tradition, tant orientale qu'occidentale, donc il est certain que les mages étaient des rois. Certes, les rois dont il est parti, dont il est parlé dans l'Ancien Testament n'étaient pas des rois qui avaient un énorme territoire. Attention, c'était des rois de petits royaumes. Ils étaient souvent en bagarre les uns contre les autres d'ailleurs. Donc il y avait une ville principale et puis une superficie assez limitée autour de la ville principale, justement, pour qui était contrôlée par ce petit roi. Alors, la tradition est donc riche de documents qui annoncent l'arrivée de l'étoile. Une étoile se lèvera de Jacob. C'est-à-dire tout à la fois un astre apparaîtra au ciel de la Judée, qui annoncera le véritable astre du monde, la lumière éternelle, descendue sur la terre pour dissiper les ténèbres de 4000 ans dont elle était enveloppée. Cet oracle est resté vivant dans les peuples de l'Arabie. Mais pas que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Et donc l'étoile lumineuse représente cette lumière du monde. Autre exemple d'une prophétie faite par un païen, qui s'appelait Chalcidius, philosophe platonicien, donc plusieurs siècles avant notre Seigneur, et qui raconte aussi une autre histoire, plus respectable, plus sainte. Il dit qu'une certaine étoile s'est levée pour annoncer, non des maladies et des morts, mais la descente d'un Dieu vénérable, ami de l'homme et du monde. Alors, il y a également des textes importants, des grands pères de l'Église, comme Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin. Et il parle justement de cette étoile des mages, en accord avec la tradition, qui ne fut pas, disent-ils, une des étoiles créées dès le commencement et qui accomplissent leur révolution d'après les lois du Créateur. Ce fut un astre nouveau, une étoile véritable, mais un astre nouveau qui apparut pour annoncer le miraculeux enfantement de la Vierge. Et saint Thomas d'Aquin explique donc que le témoignage des pères en donne la raison. L'étoile des mages, dit-il, ne fut ni une comète, ni un météore, ni aucun des astres que nous voyons briller au firmament. Ce fut une étoile créée exprès dans la région du ciel la plus voisine de la Terre et se mouvant non après les lois ordinaires du système planétaire, mais suivant la volonté libre du Créateur. Saint Thomas, donc, explique bien que ce ne fut pas une comète, une météore, ni une étoile comme les autres étoiles. C'est une étoile, donc qui va non pas suivre les orbites, si vous voulez, des planètes, des étoiles dans le ciel, mais une ligne tout à fait différente, puisqu'elle va amener les rois mages depuis l'Arabie jusqu'à leur arrivée à l'endroit où était né notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, continuons dans ces explications données par Monseigneur Gaume. Donc, voici un autre détail qui est moins connu. L'étoile des mages surpassait en lumière non seulement la colonne du désert qui menait les Juifs pendant leurs 40 ans de pérégrination dans le désert après qu'ils eurent quitté l'Égypte, mais les étoiles, la lune, le soleil, tous les globes lumineux qui étincellent dans la voûte du ciel. Donc, elle est plus brillante que les étoiles du ciel, emblème de celui qui est la lumière du monde. Par essence, sa lumière éclipsait donc la lumière de tous les astres. Telle est la disposition d'un témoin parfaitement placé pour connaître ce fait, et dont la parole est au-dessus de tout soupçon. Saint Ignace d'Antioche, un grand martyr et père de l'Église. L'étoile des mages, dont le père et la mère avaient pu la voir, brillait, dit Saint Ignace d'Antioche, dont son père et sa mère avaient pu voir cette étoile, auraient pu voir cette étoile, brillait d'un éclat supérieur à toutes les clartés qu'on avait jamais vues. Sa lumière était ineffable. La nouveauté d'un pareil phénomène jeta dans la stupeur tous ceux qui en furent témoins. Les étoiles, la lune, le soleil ne semblaient plus que des satellites de cet astre admirable dont l'éclat les faisait tous pâlir. Imaginez un peu une comète. Imaginez une grosse comète qui apparaît dans le ciel. Donc, tous les regards sont attirés vers cette comète. Et bien, cette comète prend une direction très précise et c'est cette lumière que vont suivre les rois mages. Alors, d'autres détails importants que révèle l'historien Mgr Gaume. La tradition rapporte, dit-il, que les mages d'Arabie, gardiens fidèles de l'oracle de Balaam, avaient de temps immémorial fondé un collège de 12 personnes, 12 astronomes, des plus instruits parmi eux, afin de signaler l'apparition de l'étoile prophétique. Donc, ils savaient que cette étoile allait arriver, alors ils surveillaient les cieux pour pouvoir prévenir de l'arrivée de l'étoile. Alors, ils ne vont pas arriver les mains vides. Donc, vous savez que les rois mages vont arriver avec 3 présents, dont j'ai déjà commencé à vous parler, à savoir les présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, je vous donne déjà maintenant le texte, une partie du texte de Mgr Gaume. Ce nombre de leurs présents indique assez le nombre de leurs personnes. Elle ajoute que par leur âge, ils représentaient la vie humaine dans toute son étendue. Gaspard, la jeunesse, Melchior, la vieillesse, Balthazar, l'âge mûr. Comme si par leur nombre, ils représentaient les 3 races descendues de Noé, par conséquent, l'humanité tout entière. Donc, les 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, représentent les 3 fils de Noé, Sem, Cham, Cam et Japhet. Alors, certains seraient tentés de croire que ces noms devenus populaires ont été inventés à plaisir. Bon. En fait, ils n'ont pas été inventés à plaisir, ni admis sans preuve. La tradition les a gravés dans la mémoire des générations chrétiennes. Ces noms, bien sûr, ne sont pas latins, ils sont orientaux et viennent de Chaldée, en fait. Comme le prouve le nom de Balthazar, donné au prophète Daniel et porté aussi par le roi de Babylone. Alors, voilà d'autres détails historiques donc, que donne Mgr Gaume. Il parle d'anciens martyrologes, donc très anciens, du début de l'histoire de l'Église. Il y avait donc des textes déjà qui parlaient des rois mages. Entre autres, dit-il, dans le martyrologe de Maurolicus, qui parle de ces saints. On verra plus tard que les 3 ont été canonisés par l'Église. Leur corps est conservé avec beaucoup d'honneur. Leurs reliques sont conservées à Cologne, en Allemagne. Donc, dans cette illustre église, célèbre la fête de Saint Gaspard le 1er janvier, Saint Melchior le 6 et Saint Balthazar le 11 janvier. Donc, 1er, 6, 11. Et ce qui tranche la question, l'Église catholique permet encore à ses enfants de prendre au baptême pour patron ceux qu'ils ont portés. Une preuve supplémentaire que les trois rois mages sont canonisés par l'Église. Alors avançons dans ces explications. Alors parlons un petit peu du voyage des rois mages. Bon. Quoi qu'il en soit, non moins dociles que les bergers à l'appel divin, les rois mages firent à la hâte leurs préparatifs de départ et guidés par l'étoile, ils se mirent en route vers l'Occident. On sait, même si les circonstances de ce voyage nous sont inconnues, on sait que ce voyage dura 13 jours et qu'ils arrivèrent à Bethléem le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Fixée à ce jour de toute antiquité, la fête de l'Épiphanie rend le fait incontestable et sur ce point, la tradition est unanime. Alors voyons un petit peu avec les pères la signification de leur présent. Après, je vous citerai d'autres textes des pères un peu plus loin dans les commentaires de l'Écriture sainte. Chacun de ces présents convient, donne une signification mystérieuse en rapport avec les qualités de l'enfant de Bethléem et qui marquait sa divinité, sa royauté, son humanité. Donc, tant au Seigneur Jésus-Christ était Dieu, roi, homme. Ils virent un homme, mais derrière cette humanité se cachait la divinité et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes Dieu et nous vous adorons. Voilà l'encens, symbole de la divinité, symbole du sacrifice qu'il éduque à Dieu. Vous êtes roi et nous vous reconnaissons comme tel. Voilà donc l'or, symbole de la richesse et de la puissance, apanage distinctif de la royauté. Vous êtes Dieu homme et nous vous confessons dans votre personne le mystère qui, unissant le fini à l'infini, réconcilie l'homme et Dieu. Voici la myrrhe, donc, aromate destiné à embaumer les corps et qui servira à votre sépulture lorsque vous aurez daigné souffrir la mort pour donner la vie au monde. L'or au roi, l'encens à Dieu, la myrrhe à l'homme. Alors, autre chose très importante et très intéressante, Mgr Gaume explique que les mages, en fait, étaient des Arabes, mais qui descendaient d'Abraham. Donc, il y avait déjà un lien, si vous voulez, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ donc, va recevoir la visite des rois mages. Et Mgr Gaume parle également de d'autres visiteurs qui sont venus avant, mais qui représentaient déjà l'arrivée des rois mages. Entre autres, l'arrivée de la reine de Saba. La reine de Saba, qui était venue visiter la gloire extraordinaire de Salomon, fils de David, la reine de Saba, dit la tradition, est devenue une des femmes de Salomon. Bon. Et la différence qui existe quand même entre Salomon et les rois mages, c'est que la reine de Saba offre ses trésors extraordinaires, ses pierreries extraordinaires, elle va les offrir à Salomon, qui est une figure du Messie. Tandis que les mages vont offrir ces mêmes trésors au Messie lui-même. Donc la tradition dit que la reine de Saba qui vient offrir à Salomon l'or, l'encens et la myrrhe représentent les rois mages qui vont venir adorer notre Seigneur Jésus-Christ et offrir à notre Seigneur Jésus-Christ l'or au roi, la myrrhe à l'homme et l'encens à Dieu. Donc ces mages et leur présent étaient comme les prémices du peuple gentil. Et tous ces biens, meubles et immeubles, comme les bergers, étaient eux-mêmes les prémices du peuple juif. C'était sur la plus grande échelle l'accomplissement de la loi figurative des prémices. Ainsi, dans la personne des bergers et des mages, le genre humain tout entier, avec toutes ses richesses, se trouve en adoration devant le nouveau roi à qui il consacre ce qu'il est, ce qu'il a, c'était justice. Par droit de naissance et par droit de conquête, l'enfant de Bethléem était le roi de tous et il venait régner sur tous afin de les sauver tous. C'est une citation en fait qui est reprise par le pape Pie XI dans son encyclique sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, Quas Primas. Il explique que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par naissance, et parce qu'il est, il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. D'autres renseignements importants, justement, concernant les rois mages, donc d'autres traditions qui sont recensées ici par Mgr Gaume, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc en l'an 44 de notre Seigneur, donc après sa résurrection, l'apôtre Saint Thomas partit pour les Indes. Bon. qui, dans la division du monde, lui était échu en partage. Il traversa l'Arabie. Et là, dit la tradition, il trouva les rois mages, qui étaient devenus des rois adorateurs de notre Seigneur. Devenus de majestueux vieillards, il les baptisa et leur confia l'apostolat de leur nation. Donc l'autorité des rois mages, comme missionnaires dans leur pays, vient de notre Seigneur Jésus-Christ par l'apôtre saint Thomas. Ils s'en acquittèrent donc avec un zèle proportionné aux grâces privilégiées dont ils avaient été l'objet. Une nouvelle faveur leur était réservée, celle de verser leur sang pour le Dieu à qui ils avaient offert leur trésor. Riches de mérites et d'années, ils furent martyrisés dans leur propre pays, l'Arabie heureuse. Dans la ville maintenant détruite de Cessania, les Adrumètes. Cessania Adrumetorum, peut-être aujourd'hui Sana en Arabie. Alors leurs reliques ont été recueillies par les chrétiens, leurs précieux corps furent plus tard transportés à Constantinople, placés avec une grande pompe dans l'église Sainte-Sophie. Car il fut une époque où les empereurs d'Orient, comme Charlemagne et les rois de l'Occident, comme Rome surtout, étaient, suivant le mot de l'histoire contemporaine, d'ardents chasseurs de reliques. Les saints rois reposaient donc depuis longtemps dans la ville impériale. Lorsque Eustorge, confident de l'empereur d'Orient, fut envoyé en mission auprès des Milanais, il leur fut si agréable que le siège de Milan, étant venu à vaquer au moment de son départ, toute la ville le demanda pour archevêque. Eustorge refusa d'accepter avant d'en avoir référé à l'empereur. Celui-ci fut très flatté de ce choix et envoya Eustorge à Milan pour y être sacré. De plus, il lui donna comme présent de bienvenue les corps des trois rois mages enfermés dans une grande et précieuse châsse. Donc Eustorge, qui n'est d'autre que saint Eustorge, apporta ce riche trésor à son nouveau peuple qui le reçut avec d'ineffables transports d'allégresse et de reconnaissance, et cela donc est arrivé avant donc que les reliques furent transférées à Cologne en Allemagne. Donc là on est à Milan. Alors on continue pour expliquer un petit peu l'histoire de ces reliques. À l'occasion de cette translation donc à Milan, le savant évêque d'Equilium, qui s'appelait Pierre de Natalibus, il rapporte un fait extraordinaire, mais qui n'a rien d'impossible, et si gracieux que nous nous reprocherions de le passer sous silence, dit Mgr Gaume. Le vaisseau qui apportait les cinq corps aborda au golfe de Juanne. On déchargea la précieuse châsse, on la passa sur un char, auquel on attela plusieurs paires de bœufs, mais ils ne purent le mettre en mouvement. Inspiré de Dieu, le saint archevêque les fit remplacer par deux jeunes génisses appartenant à une pieuse et pauvre femme du peuple. Aussitôt, le char s'ébranla et s'avança avec la plus grande facilité. Mais voilà que dans le trajet, probablement au passage des Alpes, un loup tua une des génisses. Avec une autorité souveraine comme celle d'Adam sur les créatures, le saint ordonna au loup de prendre la place de la génisse et de l'aider à traîner le char jusqu'à Milan. Et le loup obéit. Oubliant toute sa férocité, il devint doux comme un mouton et attelé à côté de la génisse, il traîna le char jusqu'à Milan. Et là, dans cette ville de Milan, les reliques des rois mages furent honorées pendant 600 ans, c'est-à-dire jusqu'au sac de cette ville par l'empereur Frédéric Barberousse en 1164. Mais avant le désastre, de courageux chrétiens sauvèrent le précieux dépôt, les reliques des trois rois mages, et les remirent entre les mains de Reinhold, archevêque de Cologne, et chancelier du Saint-Empire, qui avait suivi l'empereur en Italie. Comme on avait transporté à la lueur des billets de flambeaux et au milieu d'un immense concours, de Ravenne à Auxerre, le corps de Saint-Germain, ainsi furent transportés solennellement de Milan à Cologne les corps des rois mages. C'est comme ça que les rois mages atterrirent à Cologne. Avançons un petit peu. Donc d'autres détails sur l'importance de ces reliques. Donc fils aîné de l'Église parmi les rois chrétiens, comme les mages avaient été parmi les rois gentils et fils aînés de la grâce, nos anciens rois de France étaient dans l'usage d'assister avec tout le peuple à la messe solennelle de l'Épiphanie. Au moment de l'offertoire, on les voyait s'avancer vers l'autel dans toute la pompe de la majesté royale, la couronne sur la tête, ayant entre les mains des vases précieux qui contenaient l'or, l'encens et la myrrhe, dont ils faisaient hommage au roi des rois représenté par son ministre. Ainsi s'affermissait et s'affirmait la royauté chrétienne. Alors, le premier roi venu du côté d'Orient s'arrêtait debout devant le maître-autel, puis, élevant une étoile étincelante, il chantait: une étoile brillait d'un éclat incomparable. Puis le deuxième roi, il y a plusieurs rois donc qui participaient à la cérémonie, le deuxième roi venait du côté du Midi, se plaçait à la droite du premier, à qui il répondait en chantant: cette étoile annonce la naissance du roi des rois. Puis le troisième roi, venu du côté de l'Occident, se plaçait à la gauche du premier, continuait en chantant: dont les anciens prophètes ont annoncé la venue. Donc voilà le texte complet. Une étoile brillait d'un éclat incomparable qui annonce la naissance du roi des rois, dont les anciens prophètes ont annoncé la venue. Alors les trois rois mages s'embrassaient, chantaient ensemble. Donc ces trois rois, un roi principal, deux rois secondaires, si vous voulez. Alors le roi principal, c'était le roi du pays, et les deux rois secondaires étaient en général des notables. Donc les trois rois allaient chanter ensemble en conclusion: allons donc et cherchons-le pour lui offrir en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà ce qui se passait dans les temps de foi. Donc trois sont les anciens, les présents en précieux et plein de divins mystères que les mages ont offerts au nouveau roi. L'encens parce qu'il est Dieu, l'or parce qu'il est roi, la myrrhe parce qu'il est homme. Vraiment, les présents des mages sont pleins de mystères. Et ces mystères sont tous ensemble la manifestation de la charité de Dieu et la révélation du devoir de l'homme. Alors, d'autres détails intéressants que donne historiquement sur l'histoire, donc Monseigneur Gault. Donc, un détail sur Louis XIII. Jean d'Auronville rapporte ainsi la manière dont Louis XIII, duc de Bourbon, faisait son roi. Il y a un jour des rois, le duc de Bourbon fait grande fête. Et chère Lille, et fit son roi d'un enfant en âge de 8 ans, le plus pauvre que l'on trouva en toute la ville, le faisant vêtir en habit royal et lui bayant tous ses officiers pour le gouverner, et faisant bonne chère à ce roi pour révérence de Dieu. Et le lendemain, dînait ce roi à la table d'honneur. Après venait son maître d'hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi, auquel le duc Louis de Bourbon donnait communément 40 livres pour le tenir à l'école, et tous les autres chevaliers de la cour, chacun un franc, et les écuyers, chacun un demi-franc. S'y montait la somme aucune fois, près de 100 francs, que l'on baillait au père ou à la mère pour les enfants qui étaient rois à leur tour, d'être enseignés à l'école sans autres œuvres, dont maint disseux en vivait en grand honneur, et cette belle coutume tint le vaillant duc de Bourbon tant qu'il vécut. Donc, coutume des rois de France, déjà, qui ont commencé avec Louis XIII, donc, pour la fête de l'Épiphanie, d'aller chercher un pauvre et de l'honorer avec justement tous ces dons, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ était venu aussi pour les pauvres. Donc cette somme de 100 francs qu'il donnait à ce moment-là aux pauvres, qui étaient considérés comme rois pendant la journée du 6 janvier, était considérable. Hein, permettait de faire des études secondaires, comme on dit aujourd'hui, études dont les enfants du peuple étaient fort avides. Tel était encore d'autres détails, je vous les donne parce que c'est important, oui, ça nous aide à comprendre comment ces coutumes ont fait la France chrétienne. Telle était la vraie récréation de l'Épiphanie, et de là l'usage dans presque toute la France de réserver la part Dieu, c'est-à-dire la part du pauvre au gâteau des rois. Et quelle belle et bonne joie de porter la part Dieu par la neige et dans une chaumière. Donc il y avait aussi la part de l'absence, soigneusement serrée au buffet qu'un enfant venait recevoir. Donc, on tirait déjà les rois à l'époque, et une des parts était envoyée à un pauvre. Les enfants se croient autorisés ce jour-là, en divers pays, à quêter des étrennes en portant une étoile de feu. En conclusion, la fête des rois est celle qui élève les petits pour les rendre rois. Elle a été inventée par l'enfant Jésus, et c'est une invention dont il a donné le brevet et le monopole à sa seule Église. Hors de l'Église, point d'amour pour les petits. Voilà, je vous ai donné tout ce texte, j'ai pas lu tout le texte, encore une fois, il est assez long, mais je conseille beaucoup à ceux qui peuvent avoir ce livre, donc les manuscrits, les biographies évangéliques de Monseigneur Gaume, de lire tout le texte dans le livre. C'est à la page, dans le tome 1, Biographie évangélique Monseigneur Gaume, page 38 à 71. Voilà. Donc, lisez ça parce que vous aurez plus de détails encore que ceux que j'ai moi-même donnés. Alors, reprenons le texte maintenant du polycopier, en page 10. Donc, je vais reprendre certaines choses qui n'ont pas été dites dans le texte de Mgr Gourme. Alors, voyons au troisième paragraphe, donc certains détails dont parlent les pères, donc, troisième paragraphe de la page 10 du polycopier. Il est évident, disent les pères, que cette étoile ne fut pas une de celles dont le ciel est parsemé. Donc, il y a certaines raisons qui recoupent les raisons données par Mgr Gourme, vous verrez. Il n'y en a aucune dont le mouvement se dirige comme celle-ci du nord au midi, puisque telle est la position de la Perse ou de l'Arabie par rapport à la Palestine. Au deuxième détail, on peut encore le conclure du temps où elle apparut, car ce n'était pas simplement une étoile qui brillait que la nuit, comme les autres étoiles qu'on ne voit que la nuit, mais en plein jour, elle était visible, et aucune étoile, ni la lune même, n'ont une telle puissance. Autre preuve que c'est une étoile très spéciale, c'est que tantôt elle brillait, tantôt elle disparaissait. Lorsque les mages entrent à Jérusalem, elle se cache. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est la grande ville. Jérusalem, c'est le lieu où il y a tous ces bandits comme Hérode qui gouvernent le pays, et ce n'est pas un lieu très bien famé. Alors, l'étoile disparaît. Et dès que les rois mages vont sortir de Jérusalem, l'étoile va réapparaître. Lorsque les mages entrent à Jérusalem, elle se cache. Aussitôt qu'ils ont quitté le roi Hérode, elle réapparaît. Elle n'avait pas de marche qui lui fût propre. Elle allait quand les mages se mettaient en marche, et quand elle s'arrêtait, quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait aussi. Comme autrefois la colonne de nuée dans le désert. Et tout cela prouve que c'était une étoile spéciale. D'ailleurs, ce n'est pas en restant à la hauteur des cieux, mais en descendant à la portée des yeux, qu'elle a indiqué aux mages le lieu où la Vierge avait enfanté. Ce qui n'est pas fait le fait d'une étoile qui suit sa route ordinaire, mais d'une puissance intelligente. D'où l'on peut conclure que cette étoile était une vertu invisible voilée sous l'apparence d'un être visible. Certains pères parlent même d'un ange. En fait, cette étoile était un ange qui avait une luminosité extraordinaire qui guidait les mages. Bon, quoi qu'il en soit, c'était une étoile en même temps. D'autres pères pensent que c'était une véritable étoile, mais avec des propriétés tout à fait particulières, entre autres de briller pendant la journée, entre autres de savoir s'arrêter à certains moments, de disparaître puis de réapparaître, et également de descendre presque au ras du sol, en quelque sorte, pour que les mages puissent la suivre facilement. Donc, l'opinion commune, ça c'est déjà cité dans Mgr Gourme, vous l'avez entendu, c'est que les mages arrivèrent à Bethléem le 13e jour après l'apparition de l'étoile et la naissance du Christ. Et là, ils l'adorèrent. Donc, Saint Bède le Vénérable, un grand père de l'Église, d'origine anglaise, donc explique que le premier mage s'appelait Melchior, vieillard à la tête grise, une grande barbe, dit-il, présenta l'or au Seigneur roi. Le deuxième s'appelait Gaspard, jeune et sans barbe. Il présenta l'encens à Dieu. Le troisième était Fuscus, ou Balthazar, avec une barbe importante, et par le biais de la myrrhe, il signifia que le fils de l'homme devait mourir. Donc toujours les mêmes symboles. Donc l'or, l'encens et la myrrhe, l'or au roi, l'encens à Dieu. C'est pour ça que dans la messe chantée, on utilise l'encens. Et la lumière, la fumée de l'encens qui s'élève vers le ciel représente la divinité de notre Seigneur. Et enfin, la myrrhe, un parfum qui est encore utilisé dans certaines régions du monde pour embaumer les morts, dessécher les corps des morts pour les préserver de la putréfaction. Donc d'autres détails, en bas de la page 10. Comme disent les mages, quand ils prêchaient, certains disent que les mages, comme ils prêchaient le Christ, furent tués par les idolâtres, gagnèrent ainsi la couronne du martyr et s'offrirent eux-mêmes comme un holocauste d'or, d'encens et de myrrhe au Christ. Donc on a vu que c'est saint Thomas, apôtre, qui en son voyage vers l'Inde, où il était supposé aller, la partie du manche qui lui avait été réservée, c'était l'Inde justement, et donc en son passage par l'Arabie, il a terminé l'évangélisation en quelque sorte des rois mages et leur a vraisemblablement les a baptisés et les a chargés de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ en Arabie heureuse. Donc ensuite les reliques sont allées, j'avais eu le texte de Mgr Gourme, Constantinople première étape, Milan deuxième étape, Cologne troisième étape. Si vous allez à Cologne, vous pouvez voir dans la magnifique cathédrale de Cologne les rois mages. Bon, j'étais un peu déçu, mais j'y suis allé une fois, quand j'étais à Lille, ma fraternité Saint-Pilly, je suis allé une fois avec la communauté. Mais on voit pas grand-chose, parce que dans l'immense cathédrale de Cologne, c'est une des plus grandes cathédrales de la chrétienté, dans l'immense cathédrale de Cologne, à l'intérieur de la cathédrale, il y a un mausolée, et dans ce mausolée, une petite église en quelque sorte, à l'intérieur de la grande, il y a le sarcophage qui contient les corps des rois mages, mais on ne les voit pas. Donc, les pères de l'église font remarquer que tous les éléments de la création témoignent de l'arrivée de leur créateur. D'abord les cieux, qui reconnaissent comme Dieu notre Seigneur Jésus-Christ et qui lui envoie l'étoile. Donc la mère, M-E-R, qui connut et marche, et permit donc que notre Seigneur Jésus-Christ marcha sur elle, le Seigneur marchait sur les eaux de la mer. Haut de la page 11 maintenant, dans la polycopie, je me trouve là. La terre, qui le reconnaissait car elle trembla quand il mourut. Le soleil, qui le reconnaissait, cacha ses rayons au moment de la passion. Les rochers et les pierres le connaissaient car elles se brisèrent. Il est dit que, au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y eut un tremblement de terre qui brisa justement les pierres, les rochers et même certains tombeaux. Et donc l'enfer le reconnaissait car il rendit les morts qui y étaient. Là, c'est l'enfer dans le sens de l'enfer des patriarches. Et les pères de l'Église font reconnaître que c'est quand même incroyable, disent-ils. Donc tout le monde reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ, puis effectivement toutes les créatures reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ, les cieux, la mer, la terre, le soleil, les rochers, les pierres, l'enfer. Et les seuls qui ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, disent-ils, les seuls qui sont insensibles à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, sont les cœurs des Juifs infidèles qui refusèrent de reconnaître comme Dieu, cœur plus dur que des silex incapables de repentance, disent-ils. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a donné toute une série de signes de sa divinité, entre autres, il a rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, il a accompli plusieurs miracles, et bien malgré ça, notre cœur se ferme. C'est pas seulement le cœur des Juifs, attention, c'est aussi notre cœur à chaque fois que nous refusons de nous ouvrir à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est adressée. Alors, cette étoile, nous en verrons d'autres signes, d'autres explications par les pères qui sont très belles. Donc l'étoile qui va guider les rois mages représente plusieurs choses et plusieurs symboles. Il y a deux essentiels. L'étoile représente d'abord la foi catholique qui brille dans un cœur. Donc quand notre cœur est illuminé par la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, notre cœur devient comme une étoile et si la foi brûle dans notre cœur, nous allons devenir comme le guide qui va amener les gens autour de nous par la foi qui brille en nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Cette étoile aussi, d'après nombreux pères, est le symbole de la vocation religieuse. L'étoile qui apparaît dans un cœur, c'est la vocation religieuse, notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à un jeune homme, une jeune fille, viens et suis-moi. Et comme Saint Matthieu, on se lève pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ici le sens tropologique, c'est ce qu'on appelle le sens tropologique de cette étoile. Plusieurs sens, un sens mystique. Donc, l'étoile de la mer, cette étoile, donc, c'est le symbole aussi de la très sainte Vierge Marie, dit Saint Bernard surtout. C'est-à-dire de l'étoile de la mer, de ce monde battu par les tempêtes qui nous montre le chemin et nous précède au port du salut. Cette étoile de la mer est la très sainte Vierge, d'où son nom Marie, parce que l'hébreu Myriam signifie la maîtresse ou le guide de la mer. Vous connaissez ce texte très beau de Saint Bernard, regardez l'étoile invoquée Marie, étoile de la mer, glorieuse mère de Dieu. Cette étoile représente aussi, c'est le sens donc tropologique, je rappelle que le sens tropologique c'est le sens moral. Un épisode de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament explique ce que nous devons faire pour nous dans la vie de tous les jours. Donc voilà le texte ici des pères. L'étoile représente la foi du croyant, la prudence, les commandements, les conseils évangéliques, surtout l'obéissance au supérieur. Les saintes inspirations infusées par Dieu quand il appelle l'âme à agir dans un état plus parfait, par exemple la virginité ou le martyre. Et donc ça correspond à la vocation, un appel à une situation plus parfaite. Quand Dieu nous pousse à la sainteté, à la vertu héroïque dans un état de perfection, il nous montre alors une étoile qui nous précède sur les routes du ciel. regardez l'étoile, suivez-la, car elle pourrait être l'étoile de la vocation divine. N'est rien de trop difficile pour les humbles, rien de trop rugueux pour les doux, et tout peut être accompli quand la grâce fournit son assistance et l'obéissance allège l'ordre. Un texte de père, des pères de l'Église donc, sur ce sujet. Donc l'étoile représente aussi donc, l'âme en état de grâce. C'est un essence anthropologique important. L'âme en état de grâce. Voyez comment les pères savaient voir la manifestation de Dieu dans les petits détails. Analogiquement, allégoriquement, si vous voulez, les docteurs et tous ceux qui nous conduisent vers le bien brilleront comme des étoiles pour toujours. Donc, Saint Léon, père de l'Église, cite, voilà sa citation, « Quiconque veut vivre une bonne vie dans l'Église et cherche ces choses qui sont en haut, le cherche celles ici-bas, devient comme un luminaire céleste, comme une étoile. On devient une étoile pour les gens du monde qui sont perdus, qui vont vers l'étoile pour trouver la direction qui les mène hors du danger. » Et quand il garde la clarté d'une sainte conversation comme une étoile, il montre à beaucoup le chemin qui mène au Seigneur. Sur ce chemin, il nous faut nous entraider pour que dans le royaume des cieux, nous arrivons par la vraie foi et les bonnes œuvres, nous puissions briller comme des enfants de la lumière. Vous voyez comme tous ces textes sont magnifiques parce qu'ils nous aident à faire passer, je dirais, la foi catholique dans la vie de tous les jours, comme c'est important de comprendre ça. On n'est pas catholique simplement le dimanche de 10h à 11h30, hein. On est catholique toute la vie, et c'est pas par notre attitude le dimanche de 10h à 10h30 qu'on prouve au monde qu'on est catholique. On va prouver au monde qu'on est catholique par notre attitude, notre comportement, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter en général, dans le monde, pendant toute la semaine. De 10h à 10h à 11h30 le dimanche matin, quand on va à la messe, c'est comme la voiture qui s'arrête à la station d'essence pour faire le plein. Mais ce qui compte, c'est tout le trajet qui va être accompli pendant la semaine qui suit. Donc, je précise que la façon dont les gens assistent à la Sainte Messe, c'est bien sûr important, mais ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Parce que je connais des gens qui assistent à la messe comme des anges le dimanche, et puis dès qu'ils ont quitté l'église, le dimanche après-midi, ils agissent comme des anges, mais plus ils les voient les bons anges, des anges mauvais. Et ils font du n'importe quoi, parce qu'ils considèrent qu'il y a un temps pour adorer notre Seigneur le dimanche de 10h à midi, et puis en dehors de ça, on fait ce qu'on veut. Ben non, c'est pas ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable chrétien, c'est celui justement qui vit comme chrétien, pas simplement le dimanche, mais qui vit comme chrétien justement dans sa vie de tous les jours, et qui prouve justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par la pratique des bonnes œuvres. Autre détail que donnent les pères de l'Église, c'est que pendant la passion du Christ, donc l'astre du monde, notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, je vous l'ai dit, donc pendant la passion du Christ, cet astre de lumière, le soleil, va s'éclipser, vers une éclipse du soleil. Et elle fut vue jusqu'à Athènes par Saint Denis l'Aréopagite. Donc Saint Rémi l'Aréopagite qui va devenir un compagnon de Saint Paul. C'est pourquoi il fut converti par Saint Paul quand il a pris la cause de cette éclipse, quand il s'est rendu compte que cette éclipse a eu lieu exactement au moment où le Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, mourait sur la croix au moment de la crucifixion. Et quand il a découvert que cette éclipse avait eu lieu à l'heure, au jour exact de la crucifixion, eh bien il a compris. Et à ce moment-là, il s'est fait chrétien. Hein? Donc Saint Denis va, après être envoyé par Saint Paul, à l'assaut des âmes en France. Donc, vous savez qu'il va venir du côté de Lutèce, Paris, pour prêcher l'évangile et qu'il va être martyrisé à Saint Denis. Qui va même porter sa tête, il a été décapité, puis ensuite il va porter sa tête, miracle extraordinaire, il va porter sa tête pendant des kilomètres jusqu'au lieu où il voulait être enterré, l'actuelle basilique de Saint-Denis, où étaient enterrés tous les rois de France. Malheureusement, tous ces corps ont été profanés par les bandits de la Révolution. Alors avançons un petit peu, encore un petit peu de temps, donc page 11, versets 3 à 6. Le roi Hérode, apprenant donc l'arrivée des mages, apprenant donc des mages que le roi des Juifs venait de naître et qui cherchait l'endroit où il était pour pouvoir l'adorer, alors c'est la panique complète chez Hérode et les grands de ce monde. Le roi Hérode, apprenant, fut troublé, tout Jérusalem après lui. Rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit de où devait naître le Christ. Et lui dit à Bethléem de Juda. Car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui régira Israël, mon peuple. » Donc tous les Juifs savaient très bien que le Messie allait venir de la ville de, la ville de Bethléem. Hein? Alors, voici quelques commentaires donc des pères de l'Église. Les branches des arbres plantées sur les hautes montagnes sont agitées par le moindre vent. Ainsi, ceux qui sont élevés en dignité, donc sur les sommets, sont troublés par le bruit de la plus légère nouvelle. Ceux qu'on traîne dans la condition obscure, vivant dans une vallée profonde, jouissent presque toujours d'une parfaite tranquillité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un arbre est planté au sommet d'une montagne, le moindre vent fait bouger les fleurs, parce qu'il est, les feuilles, parce qu'il est en plein vent. Si au contraire, un arbre est planté dans la vallée, à l'entrée d'une grotte par exemple, protégé par les rochers, le vent peut souffler en tempête tout autour, les feuilles de l'arbre ne vont pas bouger parce que justement il est planté dans un endroit protégé. C'est la même chose ici. Alors, les mages évidemment sont allés d'abord, quand ils ont compris que le roi nouveau-né, allait naître en Palestine, donc ils sont allés dans la capitale, Jérusalem. Donc guidés par un sentiment naturel, en bas de la page 11 sur le polycopier. Les mages crurent qu'ils devaient chercher dans la capitale du royaume le roi dont la naissance leur avait été révélée. Mais celui qui avait daigné prendre la forme d'un esclave et qui était venu pour être jugé, non pas pour juger, fit choix de Bethléem pour sa naissance et de Jérusalem pour sa passion. Écoutez ces commentaires des pères qui sont splendides. S'il avait choisi Rome, la ville par excellence, on aurait pu croire que le changement qu'il a opéré dans le monde était dû à la puissance des citoyens romains. S'il eût eu un empereur romain pour père, on eût attribué ses succès à son pouvoir. Qu'a-t-il donc fait ? Le Messie a donc choisi tout ce qui a le caractère et la pauvreté de la pauvreté de la bassesse, pour qu'il soit bien démontré que c'est la puissance divine qui a transformé le genre humain. Voilà pourquoi il a fait choix d'une mère pauvre, d'une patrie encore plus pauvre encore. Voilà pourquoi il naît dans l'indigence et ce que la crèche vint enseigner. Des textes splendides donc, qui montrent bien que notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu montrer que ce n'est pas par l'artifice des hommes qui se fait connaître, mais par l'influence du Saint-Esprit dans les âmes. Et donc il va aller chercher pour naître un des plus petits pays du monde entier, la terre de Palestine. Et dans cette terre de Palestine, donc, il va aller choisir non pas la capitale, Jérusalem, qui avait une forte autorité spirituelle, mais il va aller chercher un petit village, même pas un hameau, je dirais, qui s'appelait Bethléem. Quand le roi du ciel naquit, le roi de la terre se troubla, car l'exaltation terrestre est humiliée quand apparaît la grandeur terrestre. Vous voyez, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et là, on le voit très bien. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Toute une caravane de mages arrive, de mages avec leurs serviteurs, leurs servantes arrivent, vient demander où est le roi des Juifs, où est-il né ce roi des Juifs, et au lieu de tomber à genoux dans l'adoration comme ont fait les rois mages, comme ont fait les anges, comme ont fait les bergers, comme vont faire les rois mages, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent. Notre Seigneur vient chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire qu'ils n'ont... Il refuse notre Seigneur Jésus-Christ, et non seulement il le refuse, mais pour essayer de le tuer, Hérode va faire assassiner tous les enfants de moins de 2 ans, les saints innocents. Alors, il faut, encore une fois, dans tous ces passages-là, oui, dans tous ces textes qui sont d'une très grande beauté, ces textes sacrés, attention, c'est pas n'importe quoi, l'Écriture sainte, hein, ces textes sacrés d'une très grande beauté doivent être lus et relus. Oui, je pense qu'après vous ayez écouté le cours, il serait bon pour vous, parce qu'il y a un peu de temps, de relire au moins les, les versets que j'ai expliqués, partant des pères. Oui. Il faut s'obliger à travailler. Encore une fois, on ne peut pas connaître les pères de l'Église sans travailler. Moi, j'ai dû travailler énormément, et des centaines d'heures de travail pour préparer ce cours, pour ne pas dire des milliers, parce que ça fait des années que je prépare ce cours, eh bien, vous aussi, vous devez travailler. Vous voyez, sans travailler, on ne peut pas apprécier justement cette grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc relisez les textes, n'ayez pas peur de relire ces textes donc, qui apparaissent, ces textes de l'Écriture Sainte. Relisez lentement, par exemple, au moins les textes de l'Écriture Sainte eux-mêmes pour vous les comprendre, les illuminer un petit peu par votre méditation à partir de tout ce que je vous ai expliqué. Donc je vais arrêter là. Nous sommes maintenant en haut de la page 12. Nous aurons, si Dieu veut, le prochain cours, le 27, le mardi prochain, mois de mars, donc. Donc, essayez de relire ces textes que j'ai un peu expliqués avant le prochain cours, précisément pour mieux utiliser ces merveilles des pères de l'Église. On va finir par une petite prière, tous ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.